Android et Wi-Fi au Cachin oriental. J'ai réfuté totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise des dents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. Dans sa résolution 22-11 du 26 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger jusqu'au 31 mars 2016 le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO et de sa brigade d'intervention. Pour en parler, nous recevons dans ce studio le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, M. Hervé Latsous. 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Jean-Claude Sala. Julie Pesa Bongonda assure la réalisation et Firo et la Meji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et la musique.
Parole aux auditeurs, on reçoit dans ce studio pour un échange avec les auditeurs de Radio Capi, M. Hervé Latsous, secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, pour évoquer ensemble sa mission ici en RDC, ainsi que les quelques grandes lignes de la résolution 22-11 du 26 mars 2015, prorogeant ainsi le mandat de la MONUSCO et de sa brigade jusqu'au 31 mars 2016. Quels sont les grands lignes? Nous allons parler avec vous ensemble dans cette émission 081-890-7315. Si vous avez besoin d'intervenir en direct et de nous apporter votre contribution, mais aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Monsieur Hervé Latsous, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci d'avoir accepté l'invitation des Radio Capi et des avec les auditeurs. Vous êtes en RDC dans une mission, ce n'est pas la première mission, je crois bien.
Non, c'est la cinquième ou la sixième fois que je viens en République démocratique du Congo, et c'est toujours avec plaisir, parce que on voit quand même tout ce qui est fait, toute la coopération qui s'est établie avec les autorités, avec la population, et je crois que ça fait chaud au cœur quand on sait toutes les souffrances qu'a enduré le Congo pendant des décennies, et que quand même il y a un peu de lumière sur le chemin et que les choses s'améliorent.
Et quelle est la particularité de cette mission par rapport aux autres que vous avez effectuées en RDC?
Écoutez, elle intervient dans le contexte, d'abord, vous l'avez dit, du vote de la résolution 22-11 par le Conseil de sécurité le 26 mars, et dans un contexte où nous avons lancé avec le gouvernement congolais le plan indien stratégique, c'est-à-dire au fond essayer de caler un petit peu les perspectives qui sont celles de la MONUSCO et de l'action des Nations Unies dans le pays pour la période à venir.
Et la résolution 22-11, y a-t-il une mission différente confiée à la MONUSCO par rapport aux autres résolutions?
Non, il s'agit au fond d'un mandat qui s'inscrit dans la continuité, et le titre même de la mission le dit bien. La stabilisation, c'est évidemment la priorité absolue, avec le volet le plus visible, l'action contre les groupes armés dans les provinces de l'Est, mais plus généralement, contribution à la stabilité dans l'ensemble du pays, mais aussi toutes les autres tâches qui sont celles d'une mission multidimensionnelle, comme nous disons à New York, de maintien de la paix.
Et quand on jette un coup d'œil en arrière, quel regard vous avez par rapport au travail accompli par la mission des Nations Unies en RDC juste en ce moment?
Écoutez, je compare par rapport à il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, la fin de l'année 2012, la catastrophe de la chute de Goma. Moi, j'étais en fonction à New York depuis pas très longtemps, mais j'ai vécu ça, comme tout le monde, très douloureusement. Et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, le Conseil de sécurité à décider de renforcer les moyens de la MONUSCO en créant notamment la brigade d'intervention, qui est un outil qu'on n'avait jamais vu auparavant dans aucune mission de maintien de la paix, un outil exceptionnel. Et le mot figure, d'ailleurs, dans la résolution. Ça a été aussi le début de l'utilisation des drones de surveillance aérienne qui a beaucoup, profondément changé la manière dont nous travaillons. Donc je crois qu'il y a toute une série d'innovations qui ont été lancées au fil des années dans la MONUSCO. Je pense également aussi à la protection des civils, où des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler ont été expérimentés. Et du coup, parce que ça faisait le job en RDC, ont été introduits dans d'autres missions ailleurs. Donc, je crois qu'il y a vraiment une différence qui est établie. Mais ça ne veut pas dire que le travail est fini. Il y a encore beaucoup de groupes armés, il y a encore beaucoup d'insécurité dans l'est du pays, et ça, c'est un problème qui demeure.
Avant d'écouter les auditeurs, par rapport aux groupes armés, il y a eu dernièrement une situation qui n'a pas été vue de la même manière par les Nations Unies et les gouvernements autour de l'appui de la MONUSCO dans les opérations des traques contre les FDLR. Où en sommes-nous aujourd'hui entre les discussions entre les gouvernements et la MONUSCO par rapport à cet appui?
La MONUSCO en parle régulièrement aux autorités congolaises. Je l'ai fait moi-même durant mes entretiens avec une série de ministres hier. Je crois que nous, les Nations Unies, avons mis sur la table les éléments d'une sortie de cette situation qui nous permettrait de reprendre le travail conjoint avec les forces armées congolaises. Je crois qu'il est clair que seul, ni l'un ni l'autre ne pouvons faire le travail. Par contre, en travaillant ensemble, nous devons, et c'est ce que nous recherchons, pouvoir obtenir des résultats sur le terrain. C'est ce que souhaitent les populations, c'est ce vers quoi nous devons ne ménager aucun effort.
Parce que vous avez dit qu'est-ce que c'est que la population, nous l'avons en ligne, hein. Il y a Bénin qui nous appelle de Kinshasa, Sylvain est à Bounia en province orientale, et Félicien ici à Kinshasa, 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Bénin, vous êtes avec nous, bonjour. Bénin, vous nous appelez de Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Bénin.
Ok, je salue M. Hervé Latou.
Merci.
Et puis, j'avais juste deux préoccupations. La première préoccupation, de savoir, dans tout ce qu'ils ont fait pour sécuriser notre pays, qu'est-ce qu'il estime qu'il n'a pas pu faire, qu'il reste à faire, et à combien de temps la mission peut être accomplie comme il l'attend. Et deuxièmement, si jamais le mandat de la MONUSCO partait, et finissait plutôt et qu'il passe, qu'est-ce qu'il peut conseiller aux Congolais eux-mêmes pour maintenir la paix sans recourir à l'aide des Nations Unies et autres forces étrangères? Donc, une sorte d'autonomie. Voilà ma
Merci beaucoup, Bénin, de nous avoir appelé de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il reste à faire et dans combien de temps? Si jamais la MONUSCO partait, quel conseil de donner aux Congolais pour être autonome en ce qui concerne le maintien de la paix? Merci beaucoup, Bénin. Sylvain, vous êtes à Bounia, en province orientale. Bonjour, Sylvain.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous, à tous les auditeurs, auditeurs.
On vous écoute, Sylvain.
Merci. Il faut que je vous dise que je suis attaché aux relations internationales. Et lorsqu'on parle de la MONUSCO, on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est vraiment la haute sphère où se passent et se règlent les questions internationales. Vous savez, pour la RDC, il faut que peut-être on puisse se rappeler, c'est pratiquement après les indépendances. Et la communauté internationale, à travers l'ONU de l'époque, s'était battue en RDC pour stabiliser la RDC. Mais qu'est-ce que nous retenons jusqu'à aujourd'hui? Ici, en 1927, jusqu'en 2001, c'est là où nous avons vu l'ampleur de l'ONU en RDC. Mais quel est le constat? Je suis d'accord avec Hervé, il y a certaines avancées, mais moi ici je voudrais nuancer quelque chose. Ça veut dire il y a une mission qui est venue appuyer la RDC pour que la RDC se stabilise, n'est-ce pas? Et là on considère que la RDC est instable. Et là je rappelle l'alinéa 5 de la résolution 2011, adoptée bien sûr le 26 mars 2015, qui dit que la RDC continue à être, un espace de théâtre de violence. Et là, ça m'interpelle. Maintenant, je rentre au point Bendé de la décision du 26 mars 2006 prorogeant le mandat de la MONUSCO. Question de groupe armé, question de violence militaire. Question des troubles dans les pays. Et là, je me dis comme Congolais, là, j'adresse une recommandation à M. Hervé qui est avec vous. Nous sommes obligés pratiquement de tirer des leçons. pour comprendre que le gouvernement de Kinshasa, le pouvoir assis à Kinshasa, ne veut pas aider cette même communauté internationale avec laquelle elle travaille pour qu'on parte vers l'éradication complète de ce groupe armé. Et puisque la gouvernance politique, la répartition des revenus nationaux ne satisfont pas les besoins des peuples congolais, voilà de grandes raisons. Et moi, je pense qu'à l'évaluation de cette résolution, il va falloir qu'on puisse poser la question aux gestionnaires de ces pays. Qu'est-ce qu'on a fait de ces pays? Où sont les causes de ces éléments? Parce que lorsque j'ai lu la résolution, on essaie d'étaler la chose. Mais je rentre maintenant au niveau du point 20 de la décision. Parce que je vais terminer par là.
Oui, allez-y rapidement.
La question des élections. La MONUSCO se félicite d'un calendrier qui est rendu officiel par la CENI. Mais, monsieur Gère, que dites-vous que pensez-vous que ce calendrier est constitutionnel? L'article 5 de la Constitution est violé.
Pour être plus précis, Sylvain, vous avez estimé que dans le travail que la communauté internationale fait en RDC à travers la MONUSCO, il y a la responsabilité du pouvoir politique dans la gouvernance, parce que vous estimez que la redistribution des richesses peut être aussi une des causes des problèmes d'instabilité. Alors il faudrait poser la question aux autorités congolaises, c'est qu'on a fait de la gestion, mais vous revenez par rapport à la responsabilité de la MONUSCO, vous avez évoqué les élections, vous avez évoqué les calendriers électorales. Pourrions-nous dire là, vous voudriez savoir si au niveau des Nations Unies, on a la même lecture par rapport à la manière dont le processus électoral est déjà entamé, pour être plus précis, oui.
Je veux conclure en disant ceci. J'apprécierai la MONUSCO à la fin de son mandat, puisqu'on le fera ensemble, dans le cadre d'évaluer la décision 2011, pour voir si réellement nous sommes allés aux élections, telles que le veut cette décision.
Merci. Merci beaucoup, Sylvain. On pourra voir avec notre invité quelle est la contribution de la MONUSCO, comme le veut la résolution par rapport aux élections. Merci de nous avoir appelé de Bounia en province orientale. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pio. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à notre invité.
Bon, voilà, on vous écoute, Félicien.
Merci, Pio. Je voulais dire que je pense que c'est pas une faveur que les Nations Unies envoient une mission ici. Nous sommes membres des Nations Unies. C'est notre droit et que nous soyons servis par les Nations Unies et quand nous avons des problèmes, que nous soyons aidés par les Nations Unies. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est la façon dont la MONUSCO travaille. Je comprends pas et je sais pas si l'invité peut m'éclairer. Et quand il s'agissait de faire, comment je vais dire, de chasser les M23, j'ai trouvé qu'ils se sont quand même donné beaucoup de peine aux côtés des forces armées congolaises. Et ils ont quand même travaillé pour que les M23 puissent partir. Mais quand il s'agit des FDLR et des ADF Nanou, j'ai l'impression qu'on tourne autour du pot. Dans notre temps, c'est FDLR et les ADF Nanou font beaucoup de dégâts. Ils tuent des populations en quantité incroyable, plus qu'une guerre pour le faire. Mais je ne comprends pas. Que différence y a-t-il entre les FDLR et les ADF Nanou et puis les M23 pour qu'on puisse prendre trop de précautions, trop de temps et pour faire partir ces forces négatives qui sont en train de détruire les populations, de décimer les populations à l'est du pays. Et puis aujourd'hui, on donne encore à la MONUSCO le rôle de superviser les dialogues, les élections, tout ça. Mais nous sentons comme si ils ne sont pas aussi pressés pour résoudre ce problème. Est-ce qu'ils ont besoin de s'éterniser pour s'éterniser ou bien ils ont besoin de travailler pour que ce pays puisse récupérer son indépendance, son unité et puis la paix qu'il a perdu depuis longtemps?
Merci beaucoup, Félicien. Il se dégage de votre intervention que l'engagement de la MONUSCO pour la lutte contre les FDLR et les ADF n'est pas pas le même que le soutien au phare d'essai quand il s'agissait de M23. Pourquoi vous êtes inquiet par rapport à cet engagement, mais le fait aussi qu'il y ait la MONUSCO dans cette résolution, on évoque les bons offices par rapport à la situation politique, et faudrait-il traîner pour que la RDC revienne enfin là où elle doit revenir, sur votre inquiétude. On va accorder tout de suite la parole à notre invité, M. Hervé Ladsous. Vous avez suivi les trois premiers auditeurs. Nous avons Maître Mazinga qui est à Matadi et Mme Joséphine qui nous appelle de Boston, des États-Unis d'Amérique. Vous gardez la ligne, le temps que l'invité puisse réagir au propos de ces trois premiers auditeurs.
Merci, et merci à tous trois pour vos questions. Je commencerai par répondre à quelque chose qui est au fond commun à la question posée par M. Bénat et à celle posée par M. Félicien. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire encore pour la sécurité du pays? C'est vrai que le travail, on est encore en plein dedans. On a travaillé depuis de nombreuses années pour réduire les groupes armés. L'élément nouveau, ça a été quand il y a 2 ans, lors du renouvellement annuel du mandat de la MONUSCO, le Conseil de sécurité a adopté pour la première fois une formule qui fait date dans l'histoire des Nations Unies en disant que notre mission, c'était 1. De prévenir l'expansion des groupes armés, 2. De les neutraliser, 3. De les désarmer. Le mot nouveau, c'est neutraliser. Jamais une résolution du Conseil n'avait utilisé cette expression. Et puis, les moyens nouveaux, ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, la brigade d'intervention, ça a été les drones de surveillance aérienne, ça a été en fait tout un nouvel esprit, un renouveau, un nouvel élan. Ça venait, ne l'oubliez pas, quelques mois après la chute de Goma. Donc vraiment, on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on a mis le paquet sur le M23. On y est arrivé en quelques mois. Mais maintenant, ce qui reste en face de nous, c'est des acteurs totalement différents. Le M23, c'était une petite armée, au fond, quelque chose de constitué, avec des armes lourdes, avec des unités qui se déplaçaient en unité, alors que dans le cas des ADF Nalou et dans le cas des LDLR, c'est très différent. Ce sont des individus ou des poignées d'individus qui se fondent dans la population, qui sont prêts à tout moment à se cacher, même dans une famille, est difficile à distinguer des civils de la région. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on a travaillé l'an dernier sur les ADF Nalou. Je crois que ça a été des opérations compliquées, coûteuses. Notamment, l'armée congolaise a perdu pas mal de soldats, mais nous avons appuyé par tous les moyens. On est arrivé à les réduire des trois quarts. Ce qui reste maintenant, c'est le noyau dur, hein, des gens qui sont extrêmement aguerris, mais qui sont presque des combattants individuels, et on va continuer à y travailler. Pour les FDLR, n'oublions pas que, en fait, c'est pas nous qui avons tourné autour du pot en 2014, c'était simplement le fait que les pays de la région, la SADC, pour la nommer, ont décidé qu'il fallait donner un sursis de 6 mois au FDLR pour se rendre. En fait, il ne s'est rien passé de tel, on n'en a pas vu se rendre, et à partir de janvier, on devait commencer les opérations. Là-dessus, il y a une difficulté spécifique que nous sommes en train d'essayer de traiter entre le gouvernement congolais et les Nations Unies, et j'ai vif espoir qu'on va pouvoir ensemble enregistrer des résultats probants dans la période qui vient. Alors, pour revenir sur la deuxième question posée par M. Bénat, le départ de la MONUSCO, je crois qu'il y a une réalité, c'est que les missions de maintien de la paix n'ont pas vocation à s'éterniser. Nous sommes ici depuis des années et nous acceptons totalement l'idée que le jour viendra où nous devrons fermer cette mission de maintien de la paix. Mais pour l'heure, le travail n'est pas fait. Donc nous devons le poursuivre. Il s'agit de la plus grosse mission des Nations Unies actuellement, 20 000 hommes pour les militaires. Donc nous avons fait, parce qu'il y a des pressions évidemment pour réduire, nous avons fait des propositions qui ont été entérinées par le Conseil de sécurité. Et cette année, ce seront 10% des effectifs qui vont être graduellement réduits. Aller au-delà nous paraît hasardeux. Nous paraît, je veux dire, paraît au Conseil de sécurité un petit peu hasardeux. Le gouvernement congolais, pour autant, souhaite que cette tendance se maintienne, voire s'amplifie. Nous sommes, depuis cette semaine, en train de faire des évaluations conjointes région après région, du potentiel que les Congolais, les Nations Unies, nous avons de faire face aux menaces sécuritaires, de réduire les groupes armés. Ce travail est en cours. Voilà. Donc, je pense que la fermeture de la MONUSCO, elle n'est pas pour demain, mais elle interviendra à un moment ou à un autre.
Il y a cette question sur le rôle de la MONUSCO, les élections, et pas sur le plan politique, bien sûr.
C'est vrai, il ne faut pas réduire le rôle des Nations Unies à un rôle sécuritaire, un rôle stabilisateur. Il y a toute une série, une mission de la scène de la paix des Nations Unies, au fond, c'est un instrument politique. Ce qu'on voit, c'est le casque bleu, c'est le béret bleu, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une vision. Et cette vision, c'est d'abord de traiter les symptômes, en l'occurrence les populations violentées, maltraitées, déplacées, la protection de ces populations, autrement dit, mais au-delà de ça, traiter les causes profondes de la crise, les causes qui ont amené cette situation. Et quelles sont ces causes? Je crois qu'il y a eu, on ne peut pas ne pas dire le contraire, il y a une crise de gouvernance profonde au fil des décennies, par le passé, qui a amené l'État à se retirer, ce qui a créé un vide, notamment dans tout l'est du Congo. Donc, une des priorités, c'est d'aider l'État à se réétablir, à réaffirmer et manifester à nouveau sa présence, sa souveraineté sur son territoire. Deuxièmement, développer ce qui est aussi au cœur des Nations Unies, des valeurs des Nations Unies, c'est-à-dire les droits de l'homme et l'état de droit, hein, y compris la réforme des institutions de sécurité, aider la police nationale congolaise à se former, à se déployer, et puis faire en sorte que les processus démocratiques qui existent déjà dans ce pays continuent de se développer. Donc il va y avoir, le Conseil de sécurité le souhaite, un rôle des Nations Unies dans le processus électoral, et je le dis très clairement, un rôle qui ne doit pas être simplement un rôle logisticien. On ne va pas se contenter de transporter les urnes et les bulletins de vote. On a aussi un rôle pour accompagner ce processus d'approfondissement de la démocratie, de maintien et d'expansion des espaces de liberté pour les citoyens. Et l'attente, c'est vraiment que tout cela se passe de la manière la plus transparente et en conformité avec les voeux des citoyens.
Il y a maître Sandile qui est à Lubumbashi, Joséphine Eto à Boston des États-Unis d'Amérique et maître Mazinga qui est à Matadi. Mais il y a cette question par rapport à la mission des bons offices. On sait qu'il y a, il n'y a pas le même point de vue par rapport à la participation au processus électoral. Du côté de l'opposition, on souhaite voir les Nations Unies à travers la MONUSCO faciliter un dialogue entre le gouvernement ainsi que l'opposition pour avoir quand même un processus électoral apaisé. Alors spécifiquement, que doit faire la MONUSCO pour faciliter ces échanges entre le gouvernement et l'opposition?
Je vous l'ai dit, déjà tout faire pour que cet espace politique de dialogue entre les différents acteurs de la vie politique, de la société civile, que cet espace se maintienne et s'étende. Parce que c'est ainsi que vit une démocratie, n'est-ce pas? Donc, en même temps, maintenir, veiller au maintien des libertés publiques, hein, parce que c'est un outil nécessaire. Donc voilà, ça va être une série d'actions qui vont se développer dans la période qui vient, et je crois que c'est ainsi que le Conseil de sécurité le souhaite.
081-890-6315 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Maître Mazinga, vous nous appelez des Matadi dans la province du Bas-Congo. Bonjour, maître.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous nos auditeurs de la radio Kaki.
On vous écoute, maître.
En fait, je suis très content des propos tenus par le représentant des Nations Unies. Par rapport à cette question, il y a une approche diachronique, c'est-à-dire, premièrement, comprendre quelle est la stratégie utilisée par les Nations Unies ou la MONUSCO au Congo pour trouver une solution par rapport au stade de groupes armés à l'est du pays. Premièrement, je dirais, Pierrot, il faut comprendre que la stratégie utilisée par la MONUSCO n'est pas la même que celle utilisée par notre armée. Et c'est là, en fait, la base de tous les conflits ou de toutes les confusions entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Par les faits, là, il ne faut pas que nous ignorons la mission originelle de la MONUSCO. La MONUSCO a d'abord la mission civile, la protection des populations civiles. Mais en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, lorsque la paix internationale est menacée, c'est là que la MONUSCO peut intervenir dans les cadres d'une manière offensive. En intervenant dans ces cas-là, la MONUSCO n'oublie toujours pas sa mission de protection des civils. C'est pourquoi lorsque la MONUSCO intervient sur le terrain, ils sont aussi contre des protections civiles. Mais par contre, lorsque les FARDC interviennent, souvent ils ne tiennent pas compte des droits de l'homme. Et lorsque la MONUSCO, en même temps, peut intervenir dans les cas offensifs, et peut aussi pouvoir dénoncer les violations des droits de l'homme, c'est là que se posera les problèmes, M. Zéro. Parce que comment est-ce que la MONUSCO peut-il travailler aux côtés de l'armée de la RDC, ou de laquelle groupe d'armée, et en même temps, à sa service de la protection des droits de l'homme, dénoncer les droits de l'homme, vous voyez la conviction. Tout, c'est là maintenant la réserve qui existe entre le partenariat de la MONUSCO et la RDC. Parce que lorsque les FADC interviennent, et qu'il y a des violations des droits de l'homme, la même MONUSCO qui devait être à côté de la FADC, monte au créneau pour dénoncer les différents droits de l'homme perpétrés par l'armée de la RDC. Donc, c'est là que nous voyons combien la MONUSCO tient aussi en compte la protection des civils. Et c'est là la plus grande confusion. C'est comme vous avez vu, juste après les dénonciations des droits de l'homme, des violations des droits de l'homme par le Bureau Conjoint des Nations Unies, la RDC a refusé à ce que la MONUSCO participe au chat de FLR. C'est pour éviter à ce que la même MONUSCO intervienne à leur côté et vienne encore par sa service civile dénoncer les violations des droits de l'homme. Donc vous voyez, et de deux, par rapport à la mission de vos offices. M. Pierrot, vous avez notre pays qui est indépendant. Il faut que les autorités du pays prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire, si le gouvernement ne s'entend pas bien avec l'opposition, ce n'est pas la MONUSCO qui vient de trouver une solution. C'est là que la MONUSCO doit être présente, qui n'est pas être considérée comme un groupe commissaire. Parce qu'elle, elle peut venir. En 2006, en 2011, nous avons vu la porte de la MONUSCO, les titres électoraux qui nous a portés. Mais en 2016, étant donné qu'il y a tellement de confusion autour de toutes ces différences, autour du processus électoral, la MONUSCO certainement va intervenir. Mais dès lors, il y a déjà, comme j'ai dit, il y a déjà des confusions par rapport à l'intervention de la MONUSCO, soit du point de vue civil ou par rapport à l'armée, la République démocratique du Congo ou les autorités de la RDC ne laisseront pas le libre cours à la MONUSCO d'intervenir en matière électorale. Parce qu'on sait que de cette manière, dans cette matière, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme. Donc la MONUSCO doit être présente. Moi, je demanderai à la MONUSCO d'intervenir avec quelques réserves pour éviter à ce qu'on dise que c'est la MONUSCO qui a posé une question à la MONUSCO par rapport à la force commune de Malou. Vous avez vu comment est-ce que la MONUSCO, j'ai suivi la contrat de faire la MONUSCO. En fait, les porte-parole s'est dit, mais c'est pas bien donner des prévisions parce qu'apparemment, il ne sait pas dire des choses clairement. Étant donné qu'il y a déjà des antécédents face au gouvernement de la MONUSCO.
Alors, Maître Mavinga, vous estimez que le fait qu'il y ait eu deux visions différentes, si on peut utiliser ces termes, entre la MONUSCO quant à la protection des civils, à ce qui concerne les violations des droits de l'homme, vous estimez que les précédents sur le plan militaire risquent d'avoir un impact négatif sur les processus électoraux si jamais la MONUSCO s'impliquait. Alors, pour vous, vous conseillez à la MONUSCO d'être prudente, d'être assez réservée pour éviter qu'elle ne soit accusée d'être bouc émissaire dans ce qui arrive en RDC, que ce soit la compréhension sur les opérations militaires, tout comme le processus électoral. Merci beaucoup, Maître Mavinga. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Vous nous avez rejoint dans cet échange autour du mandat de la MONUSCO, la mission ici en RDC. Vous êtes avec nous. Bonjour, Madame Joséphine.
Bonjour, Radio Okapi. D'emblée, je vais dire que la résolution de la création de la MONUSCO, la résolution 1279 et la résolution 1291, ça dit que la MONUSCO vient, c'est une mission de l'Organisation des Nations Unies pour stabiliser. Pour la stabilisation en République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Donc, la stabilisation. Donc, c'est une mission spéciale, on a dit. C'est une mission spéciale. Donc, la MONUSCO n'est plus là pour seulement voir le problème de la population, parce qu'elle est devenue spéciale. J'ai lu Madame Clinton dans son livre Hard Choices. Elle a dit déjà en 1900, en 2000, je crois en 2009, Donc, à partir de 1999 jusqu'en 2009, ça faisait 10 ans déjà que la MONUSCO était au Congo. Quand elle est allée au Congo, elle a vu le chaos. Elle a vu le chaos. Donc, ce que moi je veux dire, la MONUSCO est là depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 15 à 16 ans. Si un enfant était né en 1999, jusqu'à aujourd'hui, il doit être en cinquième des humanités. Il lui reste seulement une année pour terminer ses études. Donc l'enfant là a déjà grandi. Et cet enfant, pour lui, si la MONUSCO continue à rester au Congo, il va croire que c'est ça le normal. Ce que moi je veux dire, dans le même livre de Madame Clinton, elle a dit que l'émission de aide, même de la MONUSCO là, l'émission d'aider les pays africains, ça a failli. Pourquoi? Parce que quand la MONUSCO vient, comme la MONUSCO qui vient au Congo avec 20 000 hommes, c'est beaucoup déjà. Quand ils viennent comme ça, ils font leur mission et puis ils partent. Et ils n'entraînent pas la population locale. Elle parlait de aide qui donnait aux Africains le maïs, le riz, la farine et tout et tout. Et ils ont compris qu'après 50 ans, les aides là n'ont jamais aidé parce que les routes n'ont jamais été faites, le fer n'a jamais été fait.
Alors, madame Joséphine.
Alors, si je prends le cas de la MONUSCO n'aide pas le Congo en venant avec 20 000 hommes et en restant au Congo pendant 16 ans. Ou quand quelqu'un vient au Congo d'emblée, il voit le chaos.
Alors, vous estimez, madame Joséphine, pour être plus bref,
à la MONUSCO.
Voilà, pour être plus bref, et écoutez aussi d'autres compatriotes, parce qu'ils sont nombreux, on ne saura pas rester aussi très très longtemps avec le secrétaire général adjoint. Alors, vous estimez, vous, qu'apporter 20 000 hommes pendant 16 ans, et ceux qui viennent de l'extérieur trouvent qu'il y a le chaos, alors vous estimez que la MONUSCO n'aide pas suffisamment dans cette mission, mais on pourra voir avec notre invité, parce qu'il a dit à l'introduction, que la situation de la RDC n'est pas la même quand les Nations Unies sont arrivées en 99 jusqu'à aujourd'hui. On peut rappeler en passant qu'on a eu quand même deux fois un processus électoral en 2006 et 2011, mais la vision n'est pas la même. Vous avez évoqué ces livres de Madame Clinton. Nous revenons au pays. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Est-ce que vous avez cette impression que 20 000 hommes et 16 ans après, et il n'y a pas eu suffisamment d'action menée pour aider la RDC? Vous êtes avec nous de Lubumbashi, Maître Sonville.
Oui, bonjour Monsieur Perrault, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Lubumbashi. En ce qui concerne les allégations de Madame Joséphine, je ne souscris pas à cette manière de voir les choses. Pour moi, je dois d'abord commencer par louer cette initiative de la MONUSCO, du fait qu'ils ont encore un mandat d'un an, puisqu'ils ont vu que ça n'allait pas au Congo. Il n'y a même pas un jour, M. Delamégie, que nous venons d'apprendre qu'il y a une incursion des Rwandais sur le territoire congolais. Il n'y a pas trois jours qu'on a appris qu'on a arrêté, on a suspecté même deux généraux en complicité avec Joseph Nalou. C'est-à-dire que l'insécurité persiste toujours et la MONUSCO doit être là pour aider les Congolais. Mais la question que je peux me poser, il y a eu une rencontre au niveau du chef de l'ONU, là où on a eu accordé encore la prolongation à la MONUSCO d'un an. Comment est-ce que le gouvernement a accueilli cette résolution? Puisqu'il y a eu une discussion trop houleuse. Quels sont les points de divergence entre la MONUSCO et le gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement reproche à la MONUSCO? Puisque pour le gouvernement, il a fallu que la MONUSCO parte. Et la MONUSCO a dit, non, je réduis le nombre, mais je ne pars pas. Puisqu'il y a encore beaucoup à faire au Congo, et je dois pérenniser, consolider cette paix que j'ai acquise avec beaucoup de sacrifices. Et maintenant, par rapport aux échéances électorales, comment la MONUSCO préconise sécuriser la population? Puisque, M. Pierre Lamézi, nous assistons maintenant à des arrestations arbitraires, à l'interdiction des manifestations. Or, la MONUSCO est là pour consolider cette démocratie que nous avons acquise chèrement. Mais avec vouloir le départ de la MONUSCO, j'estime qu'il y a un discours qui pourrait faire un peu d'intimider la population qui doit voter en toute liberté. Lorsque la population est intimidée par notre police, par notre police, notre armée, et la population ne saura pas à quel fin se vouer. Or, si la MONUSCO est là, elle sera un peu désécurisée. Et lorsqu'on est menacé, on peut même retrouver refuge à la base de la MONUSCO. Et hormis cela, comment la MONUSCO compte-t-elle ramener les deux classes politiques et la CENI, pour ce qu'il y a encore là des divergences? Il y a des préalables, par exemple, du côté de l'opposition qui sont posées pour que cette opposition-là se présente aux élections provinciales. Comment est-ce que, puisque la MONUSCO a dit qu'elle fera le bon office, comment est-ce qu'elle compte ramener ces deux classes politiques et la FNI autour du même table?
Voilà.
Parce que pour nous, nous devons vivre la paix.
Mm-hmm.
Alors,
merci, merci, maître. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se bousculent sur notre standard pour intervenir alors que nous allons tout droit vers la ligne droite de la fin de l'émission. Vous avez d'abord voulu savoir le point de divergence entre la MONUSCO et le gouvernement, c'est quand dans la prolongation du mandat, on a vu les discussions qui se sont déroulées à New York autour de ça. À quel niveau se trouve le point de divergence? Mais vous estimez que concrètement, la MONUSCO vous dise comment elle compte jouer ses rôles, n'est-ce pas, dans les bons offices pour permettre à ce que les acteurs politiques aient confiance au processus électoral. Merci beaucoup. Nous revenons ici à Kinshasa rapidement. Maurice, vous êtes avec nous parce que là, on n'a pas encore beaucoup de temps. Il faudrait libérer notre invité. Maurice, on vous écoute.
Bonjour, je voudrais aussi saluer M. Latrus, que je félicite aussi pour sa participation à l'émission. Je pense qu'après avoir entendu l'auditeur de tout à l'heure, je suis même tenté de dire sans objet, mais je vais aller presque dans le même sens que lui. En fait, nous apprécions la politique en fait, des conditionnalités qui est en fait pratiquée par les Nations Unies. Et là, en fait, nous avons raison par rapport en fait, aux conditionnalités qu'ils avaient posées par rapport aux deux officiers supérieurs qui ne voulaient pas en fait, voir à la tête de l'opération contre Abdelair. Aujourd'hui, quand même, ça nous donne raison par rapport aux révélations qui ont été en fait, et qui ont fait des révélations accablantes dont monsieur, je crois, l'auditeur de tout à l'heure parlait. Alors, mais ma préoccupation se situe plus sur la série vivante, en fait. Ici, je voudrais parler des élections. Vous savez, tout ce que nous découvrons comme contrainte, comme obstacle, même écueil, par rapport à ces élections, est-ce que la MONUSCO, plutôt la MONUSCO, oui, les Nations Unies dans l'ensemble, parce que lui n'est pas là seulement pour la MONUSCO, mais c'est vraiment toute l'ONU. Toute l'ONU dans toute cette facette. Alors, je voudrais vous poser la question. Est-ce que dans la politique des conditionnalités pratiquée par les Nations Unies, aujourd'hui, ils sont prêts, ils seront prêts de soutenir un processus entaché de beaucoup d'irrégularités, des violations de la Constitution congolaise, notamment l'article 5, qui exclut nos compatriotes, nos concitoyens, au processus électoral? La politique de conditionnalité sera-t-elle prête à soutenir un tel processus? Ça, c'est la question que je pose en fait à
notre invité. Voilà, merci beaucoup. Une réponse précise. Merci Maurice. Il faudrait pas, on ne pourra pas s'éterniser, M. Hervé, là, tout ça, qu'il y a d'autres charges tout à l'heure pour vous. Mais il y a cette question qui est revenue, la MONUSCO et les élections. On sait que c'est un processus, c'est très important. En 2006, on a vu le rôle qu'a joué la MONUSCO en ce qui concerne les élections. 2011, la même chose. Les auditeurs reviennent sur l'implication sur les plans politiques, les dialogues, le système comme il se déroule. Parce que le souci, enfin, c'est d'avoir un processus électoral apaisé qui permette aux gens de vivre en paix. Parce que notre compatriote de Lubumbashi a évoqué tout à l'heure que les gens ont besoin de vivre en paix. Alors, il voudrait vraiment avoir des précisions auprès de vous de quel rôle la MONUSCO doit jouer vraiment sur le plan politique dans ce processus électoral.
D'abord, je voudrais, si vous permettez, répondre quand même à la question du premier auditeur, Maître Mavinga, sur la manière dont nous travaillons contre les groupes armés. Je crois que c'est une situation dans laquelle le but ultime vers lequel nous devons tendre, c'est que les forces de sécurité congolaises, les forces armées, la police, soient en mesure d'assurer la paix et l'ordre dans les provinces de l'Est. C'est un processus dans lequel, d'ailleurs, l'armée congolaise a progressé, la police également, mais c'est un processus qui n'est pas achevé. C'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité nous demande, seul ou avec les forces congolaises, d'agir contre ces groupes. Il est évident que tout cela se fait au nom de cet impératif qui est central dans beaucoup de nos missions contemporaines, qui est la protection des civils. Mais il est évident que nous ne pouvons pas coopérer de manière indifférenciée avec tous les acteurs. Parce que, précisément, comme le disait M. Maurice, il y a cette politique de conditionnalité qui s'impose à nous et qui nous interdit de travailler avec certains acteurs parce que ils sont convaincus ou soupçonnés ou accusés d'avoir trempé dans des crimes qui touchent parfois à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. Donc nous nous devons, avant de passer à l'action, de vérifier les antécédents de tous ces acteurs militaires et policiers, et dans le cas où il y a vraiment un soupçon fort, ou carrément une certitude, eh bien nous disons, désolé, mais là nous ne pouvons pas soutenir, nous ne pouvons pas collaborer à cette tâche. C'est ce qui s'est passé avec les deux généraux au début de l'année, mais on va essayer de trouver un moyen malgré tout de sortir de cette difficulté. Et puis il y a une seconde préoccupation, c'est aussi de veiller que cet objectif de la protection des civils ne soit pas mis en échec par les dommages collatéraux que pourrait entraîner une action contre les groupes armés. Donc nous devons de vérifier qui sont les gens qui sont sur le terrain et que nous essayons de neutraliser, pour reprendre l'expression du Conseil de sécurité, et puis faire en sorte évidemment qu'il n'y ait pas de bavure, comme on dit, entre guillemets, c'est-à-dire de victimes civiles, de femmes, des enfants, qui n'ont évidemment rien à voir avec ces situations et qui doivent être protégées par tous les moyens. Alors, pour la question que vous me posiez sur les élections, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, notre rôle ne peut pas être un rôle simplement de pourvoyeur de moyens de transport pour acheminer les urnes. On le fait dans la mesure des moyens, mais c'est pas ça le centre de la question. Le centre de la question, c'est effectivement notre intervention au titre des bons offices dans un acte éminemment politique qui est au cœur de la vie politique du pays. Les élections de 2006, celles de 2011, n'ont pas été parfaites. Je crois qu'on l'a reconnu à l'époque. Il y a eu des choses qui ont été moyennement organisées. Mais quand même, le résultat n'était pas contestable. Les élections ont été transparentes et elles ont débouché sur un résultat qui était tout à fait respectable. Eh bien, je crois que nous devons contribuer par tous les moyens à ce qu'il y ait cet environnement apaisé, ces conditions transparentes pour que la majorité des Congolais puissent s'exprimer dans le respect des règles démocratiques. Je ne me lancerai pas dans une interprétation des clauses constitutionnelles, ça, c'est pas à moi, non-Congolais, de le faire, mais en revanche, veiller à ce que le processus soit conforme autant que possible avec les pratiques, les bonnes pratiques internationales, et bien voilà, nous allons nous y consacrer.
Voilà, avant de couper les auditeurs pour la conclusion, il y a une préoccupation, c'est celle de Maître Sandrine de Lubumbashi par rapport à la divergence. Il a dit qu'il y a eu un débat houleux à New York entre les Nations Unies et les gouvernements, ou est-ce qu'on ne s'était pas mis d'accord dans ces discussions?
Non, il n'y a pas eu de débat houleux, et je dirais que le Conseil de sécurité a voté la résolution 22-11 à l'unanimité. Alors, ceci étant, oui, il y a une différence d'appréciation entre le gouvernement congolais et les Nations Unies sur le rythme du reformatage de la MONUSCO. Le gouvernement congolais n'en fait pas mystère, il voudrait nous voir réduire notre présence, et d'abord notre présence militaire, de manière plus rapide. Nous, après mûre étude et après délibération au sein du Conseil de sécurité, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait ne pas prendre de risques à considérer, être raisonnable et réduire en fonction, tout simplement, des conditions objectives sur le terrain, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier conjointement avec nos amis congolais.
Nous avons Gérard, Cyril, Jules, vous avez à chacun 30 secondes pour terminer cette émission. Gérard, vous êtes à Monéditou dans la province du Kassai-Oriental, bonjour.
et bonjour, monsieur Pierrot, et bonjour à votre invité. Voilà ma question.
Rapidement, parce qu'on doit terminer, oui.
Votre invité doit savoir que faire une analyse très profonde aux questions qui reviennent dans les têtes des citoyens congolais. Parce que tout ce que les amis ont dit, nous revenons encore, mais avec quelques préoccupations. Et monsieur, en parlant, il a parlé des mots qui n'est jamais venu dans les émissions, qui est la première fois que ces mots apparaissent, c'est-à-dire neutralisés, si je l'ai bien suivi, qui seront neutralisés, seulement ceux qui sont en dehors du pays qui nous agresse, ou alors il y a aussi des Congolais qui sont ici, qui vont s'entêter à leur mission, qui seront aussi neutralisés ou pas. Voilà la première question. La deuxième question, votre invité dit que la mission va accompagner les processus électoraux en tenant compte de la volonté du peuple. Je voudrais savoir si vous... si votre invité connaît la volonté du peuple congolais. S'il connaît cette volonté, qu'il nous dit ça clairement, et que nous soyons fixés. Parce que quand nous suivons les informations sur le plan international, il y a des choses qu'on donne clairement. Mais à l'entendre parler, nous restons toujours avec les points d'interrogation dans nos têtes. Voilà pourquoi beaucoup d'intervenants reviennent sur les mêmes histoires. Voilà ma réponse.
Merci Gérard. Vous voulez savoir si l'intervention par rapport à la neutralisation des groupes armés, c'est aussi les groupes armés étrangers, les groupes armés congolais, et la volonté du peuple congolais, comme l'a dit notre invité, réside en quoi? C'est ces inquiétudes qui font que les gens reviennent sur les mêmes choses. Cyril, vous êtes à Bandundouville. On vous écoute, Cyril.
Bonjour, JR. Bonjour, M. Hervé Lapsus. JR, j'applaudis la résolution 1122 qui s'inscrit sur le mandat en continu. Vous savez, JR, les résolutions ici pour la stabilité de la paix en RDC est d'une part asymétrique et d'une autre part disproportionnelle. C'est-à-dire quoi, JR? Asymétrique, c'est du côté de la MONUSCO et disproportionnelle du côté du gouvernement congolais. Je voudrais, depuis m'avoir commencé à féliciter la MONUSCO et M. Hervé Lapsus en qualité de chargé des opérations. Le bilan est globalement satisfaisant. Pratiquement dans les années passées en RDC, par rapport à la mission de la MONUSCO. Vous savez, hein, la stabilité a pénétré, ça c'est un JR, il n'y a pas débat, surtout sur la protection des droits de l'homme. Là, je prends des cas, pratiquement sur les violences sexuelles. Vous savez, ici en RDC, nous allons de moins en moins à une atténuation des vapeurs sur les violences sexuelles. Sur ce point, la MONUSCO mérite des applaudissements et elle a une rigueur sur cette question-là. Elle dénonce et participe aux sanctions de ceux qui commettent ces crimes, JR. Je souhaiterais que la MONUSCO applique la rigueur sur les guerres à répétition et à la dissolution des différents groupes armés en activité ou encore en préparation de création. Félicitations pour la déstabilisation de Zadestanlo M23. Mais il y a encore un problème sur le...
Allez-y rapidement.
Que M. Hervé ne puisse pas changer les stratégies pour déstabiliser SLR. Mais dit professionnel, M. Gilles, parce que je termine par là, c'est du côté du gouvernement. Que le gouvernement travaille en toute sincérité avec la MONUSCO, afin de les faciliter de rester sur sa mission bien définie en RDC. Tout ceci, c'est pour éviter le système du sacrifice des boucs émissaires et la bête noire dans la mission de la MONUSCO.
Merci beaucoup, Cyril. Vous avez estimé que la MONUSCO continue avec la même rigueur en ce qui concerne la lutte contre les violences sexuelles, que ce soit la même rigueur appliquée aussi pour la lutte contre les groupes armés. Et vous avez souhaité qu'il y ait une sincérité dans la collaboration avec le gouvernement. Jules, vous êtes à Songololo dans la province de Bakongo. On va terminer avec vous cette émission, Jules. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, moi je voulais dire ceci, nous tous nous savons que dans notre pays, nous savons que si les chefs de l'air sont dans notre pays, c'est par la bénédiction de la communauté internationale. Alors ma question est celle-ci. La MONUSCO vient de faire plus de 15 ans dans notre pays. Qu'est-ce qui empêche d'éradiquer définitivement les chefs de l'air? Car nous savons que s'ils sont dans notre pays, c'est la même communauté internationale qui avait demandé aux ex-autorités de la deuxième république d'ouvrir les frontières pour faire pénétrer les SDN avec toutes les armes.
Voilà.
Nous
avons déjà passé plusieurs émissions avec vous.
Voilà ma question.
Il ne faudrait pas peut-être qu'on fasse la confusion entre les FDLR et les réfugiés rwandais qui avaient pénétré le territoire congolais. Il faudrait peut-être cette précision pour éviter qu'on ne puisse pas faire l'amalgame. Quand les réfugiés rwandais étaient arrivés, il n'y avait pas d'FDLR. C'est un mouvement qui a été créé sur le sol congolais. Voilà. Merci aux uns aux autres pour votre sympathique attention dans cette émission. On revient vous, M. Hervé Lapsus, parce qu'on doit vraiment terminer et conclure tout ce que vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Écoutez, d'abord, sur la question de M. Gérard, la neutralisation, il est évident que ça s'applique aux groupes armés congolais comme aux groupes armés étrangers. Tous ceux qui commettent des violences, qui ont forcé les gens à prendre la route, qui ont tué des civils, qui ont violé des femmes, qui ont recrusé des enfants, ces gens, il faut les arrêter, les empêcher de nuire. Mais neutralisation, ça ne veut pas dire liquider d'un coup de mitraillette, nécessairement. Ça veut dire aussi leur offrir un moyen de quitter leur statut, leur situation d'anciens combattants, et idéalement de se réintégrer. Et là, c'est toute l'importance de ce que nous appelons le DDR, la démobilisation, le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Nous n'avons pas encore à s'avancer là-dessus. Il faut le faire conjointement avec le gouvernement congolais, avec les bailleurs de fonds internationaux. Il faut, autrement dit, offrir à ces gens une autre perspective que celle de continuer la violence et de vivre de rapine et de trafic. Il faut leur offrir une perspective, et c'est cela que nous voulons. Quelle est la volonté des Congolais? Ce n'est pas à moi de dire. C'est dans un contexte démocratique, et le Congo est bien engagé sur la voie de la démocratie. Il appartiendra aux électeurs de se prononcer. Nous, ce que nous souhaitons, ce qui nous est demandé d'ailleurs, c'est de contribuer à un cadre, à un contexte qui permette justement aux électeurs de s'exprimer librement, de manière transparente, et voilà, et notre rôle s'arrête là. Sur la violence sexuelle, la question de ce série, il est évident que la plus grande rigueur doit s'appliquer. Il est évident que nous devons aider tous les acteurs qui s'engagent dans ce combat. J'ai rendu visite au docteur Mukwege à l'hôpital Panzi, au Nord Kivu. Ils font un travail formidable. Ils font un travail formidable, courageux. Hein, ils sont engagés et il faut que ces violences cessent. Il faut qu'elles soient poursuivies en justice et il n'y aura aucune pitié pour tout ça. Donc voilà, je crois qu'en synthèse, mon cher Pierrot.
Mais il y a une question plus rapidement, peut-être, dans 30 secondes. La MONUSCO est engagée dans un processus de réconfiguration, ce qui fait que sa présence est assez réduite dans d'autres villes et territoires de la RDC. Oui. Est-ce que la MONUSCO va jouer le même rôle avec une présence assez réduite dans d'autres territoires et villes de la RDC?
Écoutez, nous avons déplacé, en termes de démographie, si je puis dire, le centre de gravité de la MONUSCO au fil des années, déjà pour les militaires depuis longtemps, parce que les vraies menaces qui nécessitaient l'intervention des militaires, c'était dans l'Est, dans les Kivu. Et on vient de faire la même chose pour les cadres civils. Il reste évidemment une présence importante à Kinshasa, parce que c'est le siège du gouvernement, mais voilà.
Merci. Merci beaucoup, Hervé Latsous, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des missions de maintien de la paix. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Jean-Claude Tiala a assuré la mise en onde de Julie César Bongonda à la réalisation. Pierrot et la Méjou vous la présentaient sous la supervision de Ben Kabamba. On prend rendez-vous demain à 11h30, heure de Kinshasa, pour un autre numéro des Paroles aux éditeurs. Au revoir.